Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Il n'y aura pas d'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs le 29 avril comme prévu dans 5 provinces, annonce faite par la CENI hier. Entre autres raisons, le Nord Kivu et l'Ituri sont sous état de siège et une partie du Nord Kivu est occupée par le M23, explique la centrale électorale. Criminalité à Goma au Nord Kivu. Dans la perspective de trouver une solution à ce problème, une vingtaine d'actions sont recommandées aux autorités militaires notamment. C'est à l'issue de 3 jours d'échange avec le Conseil restreint de sécurité. Pour en parler, nous recevons Placide Nzilamba, acteur de la société civile locale. Et puis, un journaliste de la RTNC en Ituri a été agressé à son domicile la nuit de mercredi à hier jeudi par des bandits armés. Ce cas porte à 6 le nombre des journalistes agressés cette année, signale Journaliste en danger. GED condamne cette agression et la police annonce l'ouverture des enquêtes. Madame, Messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale indépendante annonce qu'il n'y aura pas d'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs le 29 avril 2024 dans 5 provinces. Intervenant dans le dialogue entre Congolais hier soir, le directeur des opérations de la centrale électorale explique que le Nord Kivu et l'Ituri sont sous état de siège, mais aussi parce qu'une partie du Nord Kivu est occupée par les rebelles du M23. Le Nord Ubangi et le Kwilu sont aussi concernés, puisque la CENI avait annulé les élections respectivement à Yakoma et Massimanimba. Enfin, Jason Senda précise que la province de l'Équateur, elle, organisera ses élections le 7 mai prochain, puisque le vice-premier ministre de l'Intérieur a accordé hier soir l'autorisation pour la reprise des activités à l'Assemblée provinciale, cela après avoir suspendu le 2 avril dernier les activités de cet organe délibérant. Entre-temps, au Sud Kivu, le collectif des comités locaux de gouvernance participative monte au créneau avant la tenue des élections des sénateurs, du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sud Kivu. Les comités locaux de gouvernance participative, une des branches de la commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu, ont déposé un mémorandum hier au secrétariat exécutif provincial de la CENI à Bukavu. Les auteurs y dénoncent les tentatives de fraude en cours de téléchargement, selon leurs propres termes, dans les états-majors des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs au Sud Kivu. Ainsi, le porte-parole du collectif met en garde tout électeur, député provincial qui se livrerait à la corruption. On écoute à ce sujet Maître Faustin Batumike au micro de Jean Kassami.
Il y a plusieurs candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs qui viennent bientôt et qui sont déjà ici à Bukavu avec des sacs et des sacs de dollars américains afin de corrompre nos députés provinciaux, Sud Kivu, et se faire élire soit en qualité de gouverneur, vice-gouverneur ou comme sénateur. Ces mêmes candidats ont fait des commandes, des montres invisibles que chaque député porterait dans les urnes afin de prouver qu'il a réellement voté pour les billets verts reçus par son candidat. Face à ce théâtre, les comités locaux de gouvernance participative préfèrent vous saisir urgemment afin de garantir les secrets de vote et monter un mécanisme pour éviter toutes les astuces de la fraude par une observation stricte. Profitons de cette occasion pour mettre les députés provinciaux en garde. Ils doivent établir les choix en fonction des aspirations du peuple et ne pas s'adonner au marchandage de voix.
En réaction, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Sud Kivu, Pius Bikungu, a promis aux comités locaux de gouvernance participative de transmettre leur mémorandum à sa hiérarchie. Par ailleurs, la campagne électorale a débuté hier jeudi pour les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, notamment dans la province du Haut-Katanga. Vanessa Kongolo nous fait vivre l'ambiance de cette première journée.
Les banderoles et affiches des différents candidats sont perceptibles à l'entrée de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga depuis ce jeudi matin. Les partisans des candidats sénateurs et gouverneurs ne sont pas du reste. pour cette première journée de campagne, habillés en t-shirt aux effigies des candidats avec le mention de leur numéro, partis politiques et slogans chantent et dansent dans la cour. La CENI Okatanga a enregistré un total de 16 candidats gouverneurs, dont 8 femmes, 14 indépendants, un candidat du regroupement RDFA, Action pour la rupture et le développement et alliés, et un candidat des LCN, les Chrétiens en marche. Pour l'élection des sénateurs, 36 candidats sénateurs sont en lice, dont 9 femmes pour 4 sièges. 14 candidats sont de l'Union sacrée de la nation, 18 candidats indépendants, 4 de l'opposition venus de Ensemble pour la République. Au niveau de l'Assemblée provinciale, les calendriers des auditions prévoient le candidat sénateur jeudi et vendredi. Samedi, ça sera le tour des candidats gouverneurs. Débutée ce jeudi, cette campagne électorale prend fin le samedi 27 avril 2024. Lubumbashi, Vanessa Kongolo, Radio Okapi.
Campagne électorale également au Congo central pour les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Au total, 62 candidats sénateurs et 14 tickets des gouverneurs et vice-gouverneurs. 32 candidats sénateurs ont pris la parole devant les députés provinciaux hier. Ce vendredi, 17 candidats sénateurs et 7 gouverneurs et vice-gouverneurs seront face aux députés provinciaux. Et demain samedi, 7 candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que 12 candidats sénateurs prendront aussi la parole dans les encablures de l'organe délibérant du Congo central. Les affiches des candidats sont visibles et la présence de plusieurs militants des partis et regroupements politiques est remarquable depuis hier, tout autour du siège de l'Assemblée provinciale du Congo central à Matadi. Notez que 4 sénateurs de la législature passée figurent aussi parmi les candidats sénateurs. Direction le Nord Kivu, une vingtaine de recommandations ont été formulées à l'intention des autorités militaires et des services de sécurité en vue de trouver une solution au problème d'insécurité généralisée en ce moment à Goma et ses environs. Ce sont les retombées d'un atelier de 3 jours qui a regroupé les forces vives, les acteurs sociopolitiques et le comité provincial de sécurité, réunion clôturée mercredi soir à Goma. Au cours de cette réunion mixte de sécurité, il a été décidé de mettre en place un mécanisme d'alerte sécuritaire, mais aussi un comité mixte composé des membres de la société civile et des élus pour faire le suivi et le plaidoyer d'un plan d'urgence sécuritaire de la ville de Goma et ses environs. Sifa Maguru nous en dit plus.
Entre autres actions suggérées par ces groupes sociaux, on peut noter les contrôles de la circulation des armes dans la ville de Goma à travers des fouilles, de bouclages ciblés, des patrouilles de police militaire et des checkpoints. Il est aussi demandé la relève de certaines unités militaires citées dans les cas d'insécurité, notamment la 11e brigade de défense principale, communément appelée Satan 2, basée dans les groupements de Rusayu, Mudja et Buvira en territoire de Nyiragongo. La société civile a également demandé de renforcer la discipline militaire et veiller à la dissipation des munitions de guerre en restaurant les contrôles des armes et leurs dépôts. En outre, les forces vives suggèrent l'interdiction et la suspension des cachots illégaux entretenus notamment par les VDP, mais aussi que les Wazalendo VDP soient dotés en tenue et insignes distinctifs afin de les identifier. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Une hausse de prix des produits de première nécessité est observée sur le marché dans la commune rurale de Kanyabayonga. Principale cause de cette flambée des prix, l'occupation par la rébellion du M23 de plusieurs localités du territoire de Rutshuru, point de ravitaillement en denrées alimentaires de la localité. Une situation qui affecte également des milliers de déplacés hébergés depuis 4 mois dans cette commune rurale. C'est un reportage de Guylaine Kassassia.
100 kg de concettes de manioc qui s'écoulaient il y a 2 mois à 50 000 francs congolais se négocient actuellement entre 100 et 120 000 francs congolais sur le marché de Kanyabayonga. 50 kg de haricots dont les prix variaient entre 48 et 54 000 francs congolais coûtent aujourd'hui 135 000 francs congolais. L'occupation par la rébellion du M23 de plusieurs axes d'approvisionnement du territoire de Rutshuru est à la base de cette situation, comme l'explique Kaindo Anzire, vendeuse au marché de Kanyabayonga.
amis.
Nous vendions un petit bancé de farine de maïs à 2000 francs. Aujourd'hui, c'est 6000 francs. Un poisson que nous vendions à 2000 francs, c'est 7000 voire 8000 francs. Nos clients parmi eux, les déplacés, ne viennent plus au marché à cause du prix qui a galopé. Les cossettes de manioc nous arrivaient de Kibirizi. Aujourd'hui, la route est coupée. Les conditions de vie sont devenues très difficiles.
Une situation qui affecte également des déplacés qui vivent à Kanyabayonga. Mariam Kavira avait fui Kichanga dans les territoires de Masisi.
À notre arrivée, un paquet de légumes coûtait 200 francs. Aujourd'hui, c'est 500 francs. Nous avons du mal à trouver même ces 500 francs. Mes enfants souffrent actuellement de la kwashoko. J'ai 11 enfants.
La commune rurale de Kanyabayonga héberge actuellement plus de 30 000 ménages des déplacés. Béni Gulen Kassessia, Radio Kapi.
Sud Kivu, vulgarisation de l'arrêté ministériel 006 portant sur le fonctionnement des commissions consultatives de résolution des conflits coutumiers en RDC après l'étape de Mikenge dans les hauts plateaux du secteur d'Itombo et territoire de Mwenga. Le ministère provincial de l'Intérieur, la division provinciale des affaires coutumières ainsi que l'inspection provinciale de la territoriale Sud Kivu ont clôturé hier à Sangé dans le territoire d'Uvira un atelier de deux jours. 40 personnes, dont quelques femmes, ont pris part à cette activité qui s'épanche sur les conflits coutumiers dans la chefferie pleine de la Ruzizi, Fiston Ngoma.
L'activité appuyée par la MONUSCO s'inscrit dans le cadre du processus de transition et du transfert des compétences à l'ONG internationale VNGI qui va prendre la relève de cette approche. Les participants recommandent la continuité des sensibilisations sur l'outil CCRCC, Commission consultative des résolutions des conflits coutumiers, jusqu'à la compréhension parfaite sur sa pertinence et son fonctionnement. Cet outil pourrait aider à résoudre les problèmes de dualisme et de pouvoir observés aujourd'hui dans les groupements Kabunambo, Luberizi et Kakamba dans la chefferie de la plaine de la Ruzizi. Dans chaque village ici, des membres de la communauté Fuliru revendiquent les postes de chef coutumier qui des droits revient au Barundi de la plaine. La semaine dernière, au cours d'une activité similaire à Mikenge, dans les hauts plateaux, le chef de secteur de Tombwe, Ishimwindula Elewano Zidane, a évoqué les problèmes similaires des dualismes et des pouvoirs coutumiers dans les groupements Basimukin du 1 et 2 et Basimwenda. À Itombwe comme dans la plaine de la Ruzizi, les conflits coutumiers ont entraîné plusieurs morts d'hommes, manque de cohésion sociale et instabilité dans les entités étatiques. Après cette série de sensibilisations, suivra une formation des animateurs avant la mise en place de toutes les CCRCC par le gouvernement congolais. Duvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Direction l'Ituri, un journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, a été agressé la nuit de mercredi à hier jeudi par des bandits armés non identifiés. D'après des témoignages, Serge Karba a été retrouvé par ses malfrats dans son domicile situé au quartier Bangkoko dans la commune de Bunia. Ils l'ont tabassé puis blessé à la machette au bras après l'avoir dépouillé de ses biens. L'ONG Journaliste en danger en province condamne cette agression qui, selon le coordonnateur provincial, porte à 6 le nombre des journalistes agressés par des bandits au centre-ville de Bunia depuis début 2024. Freddy Oupard, coordonnateur provincial de GED en Ituri, explique la situation au téléphone de Ezekiel Mousalia.
Nous condamnons d'abord cet acte de barbarie qui se fait sur le journaliste. Quand on commence déjà à toucher le journaliste, ça frise un peu. Et donc ça, c'est une agression, on dirait, si ça n'a pas été ciblé, c'est une menace où nous condamnons, d'autant plus que c'est pas la première fois. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont un peu menacés. Nous sommes déjà à 5 cas. Il y a un journaliste qui a été arrêté du côté de Getty. Il y a 2 journalistes de la radio Candide qui ont été à mettre prise, cambriolés dans leur maison. On a laissé même des messages sur le mur. Et donc, aujourd'hui, nous sommes presque avec la situation de Serge Karba. C'est le 6e cas. Et là, vraiment, ça nous écœure. Et puis, nous demandons c'est que les autorités puissent voir comment sécuriser la ville et surtout les journalistes, parce que les journalistes, quand ils n'informent pas, c'est la population qui va perdre quoi. À notre niveau, nous allons saisir le cabinet pour déjà déposer une plainte contre l'inconnu. Si ça reste impuni, ça peut continuer à un autre journaliste et ainsi de suite.
Contacté, le commandant de la police ville de Bunia, le colonel Abeli Mwangu, indique que des éléments de la police ont été dépêchés aussitôt alertés pour secourir ce chevalier de la plume, mais ces bandits avaient déjà pris fuite. La police dit avoir ouvert des enquêtes à ce sujet. Rendons-nous au Congo central. La Fédération congolaise des droits de l'homme et de développement a lancé hier l'opération des visites des lieux de détention à travers la province, opération lancée depuis la prison centrale de la ville de Boma par le coordonnateur de cette organisation de défense des droits de l'homme. Selon Gabriel Makese, ces visites permettent à l'équipe de la FCDH de s'imprégner des conditions et de la régularité de la procédure de détention afin de garantir les instructions juridiques. Pour mener à bien cette opération, le coordonnateur de la Fédération congolaise des droits de l'homme et développement appelle les responsables des lieux de détention au Congo central, auprès de qui ils passeront, de s'abstenir de toute attitude tendant à faire obstruction à cette mission. Gabriel Makese, dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Notre présence ici à l'intérieur de la prison est due au lancement d'une vaste opération de visite des lieux de détention sur l'étendue provinciale du Congo central. Cette opération s'inscrit dans la logique du contrôle citoyen consistant à mener les enquêtes et faire l'état des lieux du respect des droits des personnes détenues, tant sur les conditions que sur la régularité de la procédure de détention telle que garantie par les instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Ayant pour cible les prisons, les maisons d'arrêt, les cachots et amigos, celle-ci constitue une mission noble et passionnée qui nous est dévolue comme prérogative en vertu de l'article 3 de la loi numéro 23/027 relative à l'exercice et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Cependant, nous appelons toute autorité auprès de qui nous passerons d'avoir un comportement de courtoisie à l'égard de nos équipes et de s'abstenir de toute attitude tendant à faire obstruction à cette mission, sous peine de poursuites et sanctions prévues par la loi précitée.
Actualité internationale.
La richesse totale actuelle détenue sur le continent africain s'élève à 2500 milliards de dollars américains et sa population millionnaire devrait augmenter de 65% au cours des 10 prochaines années. Ceci ressort du rapport sur la richesse en Afrique 2024, rapport publié par la Société internationale de conseil en patrimoine. Dans sa 9e édition, le rapport annuel parle de l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc qui représentent ensemble 56% des millionnaires du continent et plus de 90% de ces milliardaires.
L'invité.
Les autorités militaires sont appelées à lancer des offensives afin de récupérer toutes les entités occupées par le M23 et permettre le retour des déplacés dans leurs milieux respectifs. C'est l'une des principales recommandations formulées mercredi à Goma par les acteurs sociopolitiques à l'issue des échanges de 3 jours avec le Conseil restreint de sécurité. Dans la perspective de trouver une solution à la criminalité à Goma, une vingtaine d'actions ont été recommandées aux autorités. Nous en parlons avec Placide Nzilamba, acteur de la société civile à Goma. Il est avec Sifa Maguru.
Placide Nzilamba, bonjour. Vous prenez part à une série de réunions mixtes de sécurité qui regroupent les autorités et la société civile et d'autres composantes. Pouvons-nous savoir en quoi vous avez été capacité en tant que leader local sur la problématique de l'insécurité dans la ville de Goma et ses alentours?
La séance de renforcement des capacités qui s'est organisée dans le cadre des réunions successives sur la situation sécuritaire en ville de Goma et ses alentours a consisté d'abord à esquisser les notions sur la gouvernance sécuritaire et il faudrait faire comprendre l'assistance qui est composée des responsables des services de sécurité, du comité provincial de sécurité, des représentants du comité territorial de sécurité de Nyiragongo, du comité local de sécurité de la commune de Goma, de la commune de Karisimbi, et aussi les représentants de la société civile au niveau provincial, les représentants des structures communautaires et de représentants des déplacés de guerre. Il était nécessaire pour que nous puissions avoir un regard commun sur ce qu'on appelle la gouvernance sécuritaire. Ce sont les premières notions qui ont été présentées. En deuxième lieu, on nous a capacité sur le diagnostic sécuritaire, comment il se réalise, comment déterminer un problème sécuritaire, comment déterminer les causes de ces problèmes et puis déterminer les actions à mener pour résoudre ce problème. Et de trois, c'était l'exposé sur les triangles sécuritaires qui regroupent les acteurs qui doivent participer à la sécurité dans un État démocratique comme le nôtre actuellement. Normalement, les acteurs au niveau de la sécurité sont au nombre de trois. Il s'agit d'abord du gouvernement lui-même, il s'agit aussi des forces vives, et il s'agit aussi des pourvoyeurs de la sécurité. Ce sont là les trois acteurs qui étaient dans la salle, qui sont concernés par le triangle la sécurité. Et que ce triangle veut que tous ces acteurs soient en harmonie, soient en collaboration pour créer une harmonie dans les actions sécuritaires qui doivent être menées.
Et la réunion proprement dite, en quoi elle a consisté? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans les discussions?
Il s'agit de la réunion mixte élargie de sécurité qui a été ouverte par son excellence monsieur le vice-gouverneur représentant le gouverneur de province, qui a expliqué un peu comment la situation sécuritaire se présente ici en province Nord Kivu. Et après cette situation, il a aussi laissé la place au conseiller spécial du gouverneur en charge de la sécurité, qui a conduit maintenant l'aspect méthodologique et pédagogique. Et le conseil spécial a été appuyé par le coach national et le coach provinciaux qui viennent des départements de sécurité ici et même de la société civile. Et les participants ont été répartis dans le carrefour où ils ont commencé maintenant à faire le diagnostic de la situation sécuritaire ici en ville de Goma et ses environs. Et maintenant, aujourd'hui, il s'est agi aussi de poursuivre ces travaux dans des grands carrefours où doivent sortir maintenant les recommandations en forme des actions amenées par toutes les parties pour que la paix et la sécurité reviennent rapidement ici en ville de Goma.
À quoi la population peut s'attendre comme résolution ou mesure qui sortira de cette série de réunions ou d'échanges avec les autorités?
Je dirais que la population doit s'attendre à la définition des actions qui pourront être mises en œuvre pour endiguer ou même réduire sensiblement l'insécurité qui fait rage en ville de Goma avec des tueries, cambriolages, avec des cas de viol, avec des cas de torture. C'est dans ces contexte que nous nous retrouvons parce qu'il se relève que même la population a un grand rôle à jouer pour endiguer cette insécurité. Nous pensons qu'à l'issue de ces assises, nous allons produire des recommandations qui seront coulées en forme d'action que toutes les parties vont mener pour essayer de faire face à cette insécurité qui gangrène aujourd'hui la ville de Goma et ses environs.
Merci.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.